Et vous d'Haïti et des Amériques, c'est avec vous, Michael Ponche, bonjour.
Bonjour Gilles, merci, les 9h10 à Washington. Les jours d'après, les jours à venir aux États-Unis où 6 juges conservateurs ont décidé de revenir sur le droit fédéral garantissant l'avortement. Et maintenant, quelle suite? On va y consacrer une très grande part de notre rendez-vous aujourd'hui. On ira aussi en Équateur, toujours bloqué le pays par les manifestants indigènes. Le président Lasso fait un geste, mais cela peut-il suffire? On va le voir. Et puis le journal de la première, Benoît Ferrand, le festival de la mer débute en Martinique. Ça commence aujourd'hui.
Un festival qui va durer une semaine. Objectif, la sensibilisation des Martiniquais à l'eau en général et à l'eau salée en particulier.
Rendez-vous dans une quinzaine de minutes, Benoît. Bienvenue à tous.
We are going to fight until we see the light.
On est fatigué, mais on se battra jusqu'à ce qu'on voit la lumière. Parole de manifestante ce week-end à New York, après cette décision, ce revirement à rebours de l'histoire. On est en 2022 et 6 juges, seulement 6 juges conservateurs de la Cour suprême des États-Unis renversent l'arrêt qui garantissait depuis les années 70 le droit à l'avortement pour chaque femme de ce pays. Marie Normand, Stéphanie Schuller, bonjour à toutes les deux.
Bonjour. Bonjour.
On va longuement s'arrêter donc sur les suites de cette onde de choc provoquée par une telle décision. D'abord Marie, J+3, ce lundi. Où en est-on depuis donc le jour de cette décision vendredi?
Alors à ce jour, 9 États, Michael, ont déjà rendu l'IVG illégal. On peut citer le Missouri, l'Arkansas, l'Alabama. Illégal donc l'IVG à de très rares exceptions qui diffèrent selon les États. Et d'autres, on le sait, vont leur emboîter le pas dans les jours, dans les semaines qui viennent. Des textes sont déjà prêts dans 26 États selon l'Institut Guttmacher.
Parmi ces États d'ailleurs, il y a le Texas qui avait déjà une des lois les plus restrictives en la matière. Aujourd'hui, en attendant qu'un nouveau texte ne passe, eh bien quasi plus aucune clinique ne pratique l'avortement. À Houston, hier, lors de la messe, les croyants jubilaient. Reportage sur place de Thomas Arms.
Dans l'église de la Bible des Woodlands, les paroissiens évangéliques, tous blancs, en majorité seniors, applaudissent quand le pasteur parle des décisions de la Cour suprême. D'abord en faveur du port d'armes.
Et la seconde décision, comme vous le savez, est l'abolition de Roe contre Wade.
Mark Ehoff est pasteur le dimanche et élu républicain dirigeant le comté de Montgomery le reste de la semaine. Un comté qui se vante d'être le plus conservateur du Texas.
Je suis tellement satisfait de cette décision et je prie pour que Dieu rende raison aux gens, pour qu'ils ne voient pas ça comme une attaque contre un style de vie.
Je suis d'accord. C'est comme si Dieu était apparu pour nous montrer le chemin.
Comme cette jeune femme, ce vétéran de la guerre du Vietnam est d'accord avec son pasteur.
C'est une affaire sérieuse ce qui s'est passé dans l'Allemagne nazie. 6 millions de juifs ont été sacrifiés. Là, on a près de 70 millions de bébés qui ont été assassinés.
Dans ce temple, on craint des réactions violentes. D'ailleurs, un policier en uniforme et des hommes en civil sont dans la foule pour rassurer et surveiller les inconnus. Mais le combat des évangéliques n'est pas fini. Leurs leaders politiques, comme l'ancien vice-président Mike Pence, appellent maintenant à une interdiction de l'avortement partout aux États-Unis. Thomas Arms, Houston, RFI.
Voilà, l'IVG, les crimes nazis, on mélange tout, on met tout au même niveau. La réalité en tout cas, ce sont ces cliniques hein, maintenant qui en effet baissent le rideau. Marie, justement, vous revenez-vous du Mississippi où vous êtes allée dans la clinique qui a été au centre de l'affaire sur laquelle la Cour suprême a donc eu à statuer. Aujourd'hui, Marie, cette clinique, elle est fermée?
Alors, pas encore. Hein. Elle vit ses dernières heures. Elle bénéficie d'un répit de 10 jours pour des questions de procédure au Mississippi. Et le personnel dit vouloir continuer à fournir des soins aux patientes jusqu'au bout, il l'a dit lors d'une conférence de presse vendredi. Ensuite, la clinique a déjà prévu de s'installer ailleurs. Ce sera au Nouveau-Mexique, c'est-à-dire à plus de 1700 km du Mississippi, plus de 15 heures de route. Et ce sera, Michael, l'une des cliniques les plus proches pour les femmes du Mississippi qui veulent mettre un terme à leur grossesse.
En tout, hein, vous le disiez, donc Marie, c'est une grosse vingtaine d'États maintenant où à terme l'accès à l'avortement sera soit interdit, soit rendu extrêmement difficile. En tout cas, à l'inverse, là, d'autres États, eux, choisissent, ils l'annoncent depuis ce week-end, vouloir garantir ce droit à l'avortement sur leur sol.
Oui, une grosse dizaine hein, se sont prononcés, avec la Californie en tête de file qui veut s'allier à l'Oregon et l'État de Washington pour former une grande coalition de défense de l'IVG sur toute la côte ouest. On assiste vraiment à une ligne de fracture très claire entre deux Amériques. D'un côté, les côtes Est et Ouest qui sanctuarisent l'avortement et de l'autre, tout le sud des États-Unis et le Midwest également, qui le rendent illégal. Et c'est une bataille culturelle entre deux Amériques, me disait Cole Musio, le président d'un lobby chrétien conservateur en Géorgie, il y a quelques jours. Et pour lui, il faut déjà penser maintenant à l'après, à cette nouvelle ère qui s'ouvre dans les États qui ont ou vont rendre l'IVG illégal.
La bataille vient de commencer. Il faut déjà s'assurer de sécuriser nos acquis grâce aux élections de mi-mandat. Et puis nous devons travailler à la culture autour de cette décision. Je suis chrétien et je pense que les églises ont un grand rôle à jouer dans l'accompagnement de ces femmes, aux côtés des agences d'adoption, des familles d'accueil, car il va bientôt y avoir plus de naissances et plus de personnes qui n'y sont pas préparées.
Voilà, Cole Musio à l'instant, et plusieurs États où l'IVG est devenu illégal soutiennent qu'il planche déjà sur ces mesures d'accompagnement pour les femmes.
Ah mais sur ce point, ces promesses, et je me tourne là vers vous, Stéphanie, là, la presse américaine ce matin est... plutôt prudente, on va dire.
Oui, tout à fait. Pour le Philadelphia Inquirer, par exemple, les mesures d'accompagnement que les Républicains disent vouloir mettre en place, eh bien, ils sont pour le moins hypocrites. Sinon, les conservateurs auraient soutenu au cours des 50 dernières années davantage de programmes médicaux et sociaux, des programmes qui auraient pu aider à la fois les femmes qui veulent éviter d'avorter et aider aussi leurs enfants. Au lieu de cela, estime le journal, les Républicains ont systématiquement décrié ces programmes comme étant du gaspillage.
Au-delà de ces promesses partisanes, donc, la presse, Stéphanie, s'interroge hein, comment réagir à présent face à cette décision donc, décriée de la Cour suprême.
Oui, tout à fait. Donc, tout d'abord, le New York Times qui fait remarquer ce matin que la Constitution américaine fournit un certain nombre d'outils pour ramener dans le droit chemin une Cour suprême que le journal qualifie de voyou, tout de même, Michael. Et ces outils de contrôle sont à la disposition du Congrès qui peut mettre en accusation, par exemple, et révoquer les juges, augmenter ou réduire la taille de la Cour elle-même. Le Congrès peut même annuler par une législation une décision de la Cour suprême.
Ça veut dire donc qu'il existe des garde-fous, hein, Stéphanie.
Oui, tout à fait. Le problème est plutôt d'ordre politique, estime encore le New York Times, qui souligne que le Parti démocrate n'a que peu ou pas d'appétit pour un combat sur la nature de la Cour suprême et sa place dans notre système constitutionnel. Le très conservateur New York Post lance sur un ton amer. Vous voulez savoir pourquoi les démocrates ne se lancent pas dans cette bataille? Parce qu'un nombre important d'entre eux sont également pro-vie. La suite dépendra donc de notre engagement de citoyennes et citoyens, estime de son côté le Los Angeles Times, car historiquement, poursuit le grand quotidien de la côte ouest, la Cour suprême n'a jamais agi dans le vide. C'est-à-dire, ses décisions ont toutes été prises dans le sillage de mobilisations plus larges de mouvements sociaux. Sans le mouvement pour les droits civiques, par exemple, la Cour suprême n'aurait jamais décidé la fin de la ségrégation raciale dans les écoles. En conséquence, l'accès à l'avortement aux États-Unis ne dépendra pas seulement de 6 juges conservateurs, il dépendra du soutien apporté par les États progressistes et surtout de l'ingéniosité de nous tous, veut croire l'éditorialiste du LA Times.
La volonté de tous, de tous ceux en faveur du droit des femmes, alors que les pro-vie, eux, fourbissent leurs armes pour l'après, on le dit, hein, Marie. Là, je reviens à vous. Quelles pourraient être les prochaines étapes pour la mouvance anti-avortement ?
Alors, il y a plusieurs initiatives à surveiller, Michael. Le Missouri, par exemple, le premier État à avoir interdit l'IVG dans la foulée de la décision de la Cour suprême, prépare un texte qui permettrait à tout citoyen d'engager des poursuites contre ceux qui aident les femmes à aller avorter dans un autre État. Pas sûr que ce soit juridiquement possible. Le Texas a tenté de faire la même chose, on s'en souvient, il y a quelques mois, et cette loi a été retoquée par les tribunaux. Le prochain combat pourrait aussi consister à faire reconnaître la personnalité juridique de l'embryon. Si l'embryon devient une personne, il serait donc protégé par le 14e amendement de la Constitution. Cet amendement dit qu'on ne peut pas priver une personne de sa vie, de sa liberté, sans procédure légale, ce qui équivaudrait à interdire l'avortement au niveau national.
Et puis, grosse inquiétude aussi, Marie, sur l'utilisation dans ce contexte qui pourrait être fait des nouvelles technologies.
Oui, en question notamment ces applications de suivi du cycle menstruel ou même ces jeux que vous pouvez avoir sur votre téléphone portable et qui revendent les données de leurs utilisateurs. Aujourd'hui déjà, vous pouvez, dans certains États, recevoir un SMS lorsque vous vous approchez d'un centre de planning familial qui pratique des avortements, message qui vise à vous dissuader d'avorter. Alors, comment seront utilisées ces données à l'avenir dans les États qui ont décidé de criminaliser l'avortement? Seront-elles utilisées, ces données, par les autorités contre les femmes qui envisagent d'interrompre leur grossesse? Question que se posent beaucoup de défenseurs des droits des femmes.
Et tout cela est à replacer évidemment dans le contexte de campagne électorale. Les États-Unis votent pour les élections de mi-mandat au mois de novembre. C'est un sujet, Marie, qui est au cœur de la campagne.
Oui, c'était déjà le cas depuis les fuites dans la presse il y a quelques semaines qui révélaient les intentions de la Cour suprême. Les démocrates essaient de se poser comme les défenseurs du droit à l'avortement pour mobiliser leur base, voire pour séduire les républicains les plus modérés. Cette affaire braque aussi les projecteurs, Michael, sur des mandats dont on parlait assez peu, finalement, jusqu'ici, comme celui de procureur général. Ce sont eux, ces procureurs généraux, depuis 72 heures, qui font entrer en vigueur les lois anti-avortement dans les États conservateurs. Donc, la compétition pour ces postes locaux va être très, très suivie, et même au niveau national.
Voilà, des élections plus cruciales que jamais. Les enjeux sont immenses et vont donc, on le comprend bien, au-delà de ce droit même à l'IVG, les États-Unis, Stéphanie, là, sont à un tournant, en fait, de leur histoire. C'est un peu le sentiment de la presse.
Oui, tout à fait. Pour le Washington Post, par exemple, Michael, la Cour suprême a déclaré la guerre à l'Amérique moderne. On ne revient pas 50 ans en arrière. Non, la décision de ces 6 juges conservateurs nous ramène brutalement au 19e siècle, lance le journal. Ce qui est en danger aujourd'hui, c'est l'Amérique dans laquelle la définition de l'égalité s'est élargie, dans laquelle l'État n'a pas le droit de s'immiscer dans nos vies, dans laquelle le droit de prendre des décisions personnelles n'est pas régi par un code postal. Alors, le Boston Globe s'inquiète aujourd'hui déjà de l'avenir de la contraception et du principe de la discrimination positive, et le Miami Herald de celui du mariage gay.
Voilà, une première porte ouverte peut-être sur d'autres qui font peur. Merci beaucoup à toutes les deux, Stéphanie. On reste ensemble pour évoquer un autre sujet dans un instant. Avant cela, parce que l'onde de choc a été mondiale après cette décision de la Cour suprême, arrêtons-nous par exemple au Chili, où les militantes féministes se battent encore aujourd'hui pour avoir ce droit à l'avortement qui est autorisé uniquement dans 3 cas bien spécifiques, quand le fœtus n'est pas viable en cas de viol ou bien quand il y a danger pour la mère. Les militantes féministes qui a rencontré Neila de Rouanet ont vécu cette décision américaine comme une trahison.
Barbara Miel Lagos est l'une des porte-paroles du puissant mouvement féministe chilien du 8 mars.
On ressent une rage profonde, c'est une très mauvaise nouvelle, mais qui s'ancre dans un contexte plus général de polarisation. D'un côté, il y a une avancée des mouvements sociaux et des peuples dans la conquête de droits. Et d'un autre côté, il y a la droite réactionnaire avec une forte politique contre les mouvements féministes.
À côté d'elle, son amie Karina Noales, également porte-parole du mouvement, fait référence au collectif féministe chilien Las Tesis.
La chanson de Las Tesis a parcouru le monde entier et elle commence avec une phrase qui prend tout son sens aujourd'hui. Le patriarcat est un juge.
Elle souligne aussi l'importance du travail de la Convention constituante chilienne chargée de rédiger une nouvelle constitution pour le pays.
Le Chili est le premier pays au monde qui inscrit dans sa constitution le droit à l'avortement. Ça devient alors un droit fondamental qui ne sera plus soumis au changement de gouvernement ou de majorité parlementaire.
Pour les Chiliennes et le droit à l'avortement, tout se jouera le 4 septembre prochain lors d'un ultime référendum pour ou contre la nouvelle constitution. Naïla de Rouanet, Santiago RFI.
Voilà, le Chili dans le sens de la marche de l'histoire ou bien dans le sens rétrograde des États-Unis. C'est ce que l'on verra donc début septembre. Il est 8h24 maintenant à Quito.
Radio Francia Internationale. Las voces del mundo.
Et l'Équateur est toujours en proie à des manifestations indigènes maintenant depuis 15 jours contre la politique économique du président Lasso, le dirigeant conservateur Stéphanie, qui joue gros.
Oui, le mouvement indigène contre la vie chère entre ce lundi dans sa 3e semaine donc. Et alors qu'au Parlement équatorien, les députés débattent toujours d'une éventuelle destitution de Guillermo Lasso, le chef d'État conservateur a lâché du lest hier soir, annonce le journal El Diario.
Nous sommes engagés à répondre à tous les points de l'agenda de nos frères indigènes et paysans. J'ai décidé de réduire le prix de l'essence de 10 cents de dollar par gallon et le prix du diesel également de 10 cents par gallon. Les Équatoriens qui cherchent le dialogue trouveront la main tendue du gouvernement. Ceux qui cherchent le chaos, la violence et le terrorisme trouveront la pleine force de la loi.
Voilà, cette baisse du prix des carburants, Stéphanie, c'était la principale revendication des manifestants indigènes.
Oui, en effet, Michael, mais la CONAI, la Confédération des Nationalités Indigènes, qui est la plus puissante organisation indigène de l'Équateur, a d'ores et déjà annoncé que cette baisse promise par le président Lasso était insuffisante, rapporte El Universo. Mais elle se dit tout de même confiante. La mobilisation commence à porter ses fruits, a déclaré la CONAI hier, qui veut consulter ses membres pour décider de la marche à suivre. En attendant, Quito a connu un dimanche calme après plusieurs jours de violents affrontements. Se réjouit la Hora aujourd'hui. Les deux côtés d'ailleurs doivent faire des concessions parce qu'aucun camp n'a suffisamment de poids politique pour s'imposer à l'autre, écrit le journal.
Et voilà pour l'Équateur, tandis qu'au Pérou, là ce sont les transporteurs routiers qui débutent eux ce lundi une grève illimitée au lendemain de l'échec de négociations entre syndicats et gouvernement au sujet là aussi de la hausse des prix des carburants, l'inflation. Au Pérou dépasse sur un an les 8%.
Le journal de l'Outre-mer.
Et c'est avec vous, Benoît Ferrand, bonjour.
Bonjour, Michael.
Ce lundi débute en Martinique le Festival de la mer.
Festival qui va durer une semaine jusqu'à dimanche, donc, à l'initiative du Parc naturel marin, de l'Office de la biodiversité et de l'Office de l'eau. Une soixantaine d'actions festives ont été prévues un peu partout sur le territoire. L'objectif premier étant, bien entendu, la sensibilisation du grand public. Aude Brador est la directrice du Parc naturel marin de la Martinique. Elle est au micro de Bertrand Caruge.
Lors de ces activités, il y aura des professionnels de la mer qui seront des invités surprises. On aura également des conteurs, on aura des jeunes étudiants du DU, du diplôme universitaire Les métiers de la mer. Donc toutes ces personnes-là seront, on va dire, nos complices pour faire en sorte que l'activité ne soit pas juste une découverte d'une activité en soi. Le parti pris, c'est qu'on aime ce qu'on connaît. Et on ne connaît pas uniquement, en tout cas le milieu marin, pas à travers la télé ou à travers les livres, mais il faut y aller. Il faut mettre la tête sous l'eau, il faut mettre la tête, les pieds dans l'eau, il faut vraiment y aller. Donc notre invité est celle-là. Volontairement, consciemment, on va à la rencontre de la Grande Bleue et on comprend que tout ce qu'on fait à terre a un impact en mer et qu'elle est effectivement sublime, mais qu'elle est aussi fragile et qu'on peut être pas dans une dépendance, mais dans une interdépendance de nos relations terre-mer.
Direction la Guyane maintenant, avec la publication du dictionnaire de la langue Teco. 4000 mots, 124 pages. Le Teco, c'est l'une des 6 langues amérindiennes de Guyane, parlées dans la vallée de l'Oyapock. Le travail pour aboutir à ce dictionnaire a commencé en 2013. La volonté, bien sûr, que cette langue ne tombe pas dans l'oubli. Comme le précise l'une des auteurs, Tiwan Kouchikli, elle est au micro, bien sûr, de la première Guyane.
Pour moi, c'est très important, vu que nos jeunes vont à l'école et j'ai bien peur que pendant qu'on travaille, on a quand même des bonnes locuteurs en teco et que si on ne fait rien, qui va faire ça à notre place et que plus tard, peut-être que ce sont peut-être des jeunes qui vont essayer de faire quelque chose et il y aura beaucoup, beaucoup de choses qui vont probablement disparaître. Ça va vite, hein, la langue, comme je vous dis, ça va vite. Hein. Dans les traditions autrefois, quand un enfant dit « Eba Ewat », ça veut dire « j'ai faim ». Et aujourd'hui, par exemple, « Outat manger ». Donc, il y a déjà ces dangers-là qui rentrent. Donc, si on ne fait pas quelque chose, dans 10 ans, là, et il y aura plein de choses comme ça. Et alors, où est-ce qu'on va ?
Bon après-midi, Michael. Bonne fin de journée et à demain.
Merci beaucoup, Benoît Ferrand. À vous et aux équipes de La Première qui refermait ce rendez-vous d'Haïti des Amériques, réalisé aujourd'hui par Claude Battista. Vous pouvez nous retrouver évidemment sur RFI.fr, l'application RFI Pure Radio, et retrouver hein, bien sûr sur notre site tous les articles liés donc à cette décision de la Cour suprême aux États-Unis sur le droit à l'avortement. Je vous conseille d'ailleurs le grand reportage de Marie Normand qui revient du Mississippi, donc le Mississippi en jeu donc, autour de cette campagne électorale autour du droit à l'avortement. Très bonne journée à tous, à demain. Enrichissez-vous.